Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir au cher public aujourd'hui, mais aussi à nos auditeurs, parce qu'on est ce soir au Brewhouse, donc pour une conférence qui est organisée dans le cadre du festival Pint of Science, donc qui est une association de vulgarisation scientifique. Et donc, ce soir, la conférence, ce sera un voyage à travers la diversité des exoplanètes, pour reprendre le titre de la conférence. Et du coup, on va s'intéresser à ça avec Vincent et Guillaume. Donc Vincent y arrive et Guillaume Chavreau. Donc ce sera en deux parties. Il y aura d'abord une partie qui sera faite par toi, Vincent, qui sera sur... Enfin, je vais te laisser expliquer toi-même, je pense que ce sera bien plus simple. Donc je te laisse te présenter et puis ensuite Guillaume il se présentera dans la deuxième partie.
Merci. Ouais, bah, bonjour à tous. Moi, je suis Vincent. Je suis un thésard en astrophysique ici à Grenoble, à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, au sein de l'UGA, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Voilà, avant ça, j'ai fait ma licence et mon master entre Londres et Paris, voilà, en astrophysique. J'ai été passionné de l'astro depuis que j'avais à peu près 10 ans, voilà.
Ok, trop cool. Bon bah, vu que la soirée de ce soir, elle est sur le thème des exoplanètes, est-ce que tu peux d'abord commencer par nous présenter ce que c'est une exoplanète, nous la définir?
Ouais, alors c'est une très bonne question. Bah évidemment, il va falloir présenter qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète. Mais avant ça, je vais retourner un tout petit peu avant les exoplanètes. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. On va regarder dans notre propre système solaire. On connaît habituellement 8 planètes. Bon, avant, c'en était 9. Mais je ne vais pas aller dans les détails de ça. On connaît les 8 planètes. On en a 4 internes qui tournent plus proches du Soleil, qui sont les planètes telluriques, et 4 planètes plus lointaines, les planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il y a 3 critères qui ont été définis pour être une planète. La première chose, c'est tourner autour du Soleil, être en orbite autour du Soleil. Le deuxième critère, c'est d'être sphérique, d'être assez massif pour être devenu sphérique sous sa propre gravité. Et le troisième, c'est d'être l'objet le plus massif dans son orbite. C'est ça qui a fait qu'on a enlevé Pluton de la liste des planètes, si vous étiez au courant de cette histoire. Voilà. Et donc, ces planètes, jusqu'à il y a 30 ans, c'était les seules planètes qu'on connaissait dans notre univers. Si on dézoome un petit peu, donc notre... étoile, le Soleil, c'est une grosse boule de gaz en fusion. Et si on dézoome un peu, ce Soleil, il fait partie d'un plus grand ensemble d'étoiles qu'on appelle la Voie lactée, qui est notre galaxie, donc qui contient des centaines de millions d'étoiles dont notre Soleil fait partie. Et pour ceux qui sont ici en présentiel, vous pouvez voir où il est indiqué sur cette représentation de notre galaxie. Voilà, maintenant, ces étoiles, elles sont très loin de nous et elles pourraient aussi avoir des planètes qui leur tournent autour. C'est ça qu'on va venir appeler des exoplanètes. Exo, ça veut dire hors d'eux, donc en dehors de notre système solaire. Et planète, bah, ça a toujours la même définition, mais c'est juste autour d'une étoile autre que le Soleil. Donc ici, j'ai représenté une étoile avec une petite planète. Est-ce que quelqu'un aurait envie de nous donner un nom à notre étoile, suggérer des noms? Gilles, ok, j'ai eu Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de noms qu'on pourrait donner à notre étoile? Philippe, ok, c'est des très bons noms. Moi, je suis un scientifique, alors j'ai choisi de lui donner le nom d'une plaque d'immatriculation. Ça va être XY0152. Donc, elle a une petite planète qui lui tourne autour. Cette planète, si on est un des scientifiques aussi, on va lui donner le nom de XYZ0152, le nom de l'étoile, avec un petit b en minuscule à côté pour montrer que c'est la planète qui tourne autour de cette étoile.
Donc maintenant qu'on sait qu'on a cette planète Gilles, Philippe, ou bien le nom un peu moins charmant que tu lui as donné, je ne sais plus ce que c'est. Maintenant qu'on sait oui, qu'on a cette étoile, pardon, donc avec la planète qui lui tourne autour, est-ce qu'on peut savoir autre chose sur cette planète ?
Ouais, alors très bonne question. A priori, cette planète, elle peut avoir un petit peu n'importe quel aspect, mais si on se base sur les planètes qu'on connaît dans le système solaire, elle va être entre 10 000 et 10 milliards de fois moins brillante que son étoile. Bah, l'étoile, elle produit sa propre énergie, elle va produire plein de lumière, et elle va être plus grosse que la planète, comme dans notre système solaire, même si on peut avoir des planètes de différentes tailles. Et surtout, l'étoile, elle est très très loin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, la planète, elle tourne autour de l'étoile. Elles sont relativement proches à l'échelle de notre galaxie. Mais quand on va regarder, nous, de notre point de vue, l'étoile et la planète, elles sont trop proches pour qu'on puisse voir les deux. On va juste voir un point lumineux qui contient la lumière de l'étoile et de la planète.
Mais du coup, comment on peut étudier ces planètes si on n'arrive pas à les distinguer ?
Ouais, très bonne question. C'est là tout le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on va étudier ces planètes si on ne peut même pas les voir ? Eh bien, pour ça, il va falloir étudier la lumière de l'étoile. Et donc, on a plusieurs méthodes pour faire ça. La première méthode, ça va être ce qu'on appelle la photométrie. La photométrie, c'est quoi ? C'est de regarder la lumière de cette étoile, mesurer combien de lumière cette étoile nous parvient au cours du temps. Et donc ça, on va pouvoir le faire sur tout un champ d'étoiles. De manière simultanée, on va pouvoir prendre une photo de plein d'étoiles et regarder comment leur lumière varie au cours du temps. Donc cette méthode, elle est pratique parce qu'on peut être sensible à des très petites variations de la lumière, parce qu'on peut collectionner pas mal de lumière de l'étoile. On a un grand champ d'étoiles, comme je vous ai dit, donc on peut prendre faire cette photométrie sur plein d'étoiles en même temps. On a aussi accès du coup à des étoiles qui ne font pas beaucoup de lumière parce qu'on peut, comme avec un appareil photo, on peut intégrer pendant une longue pause et du coup avoir accès à des étoiles qui sont moins brillantes. Par contre, ça nous donne une information qui est quand même assez pauvre. On connaît juste l'étoile, elle est un peu plus brillante à ce moment-là, elle est un peu moins brillante à ce moment-là. Alors, c'est une méthode qui va être utilisée au début, mais après, on va essayer de gagner plus d'informations sur nos planètes. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser ce qu'on appelle la spectroscopie. Et là, on va en fait venir séparer la lumière de l'étoile. Donc l'étoile, elle va émettre une lumière qui est grosso modo blanche. Mais cette lumière blanche, elle est composée de plein de différentes couleurs, de différentes longueurs d'onde, qu'on va pouvoir venir séparer avec un prisme, comme sur l'album de Pink Floyd, si vous le connaissez. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, après ? Derrière ce prisme, on va former un arc-en-ciel, et cet arc-en-ciel, on va mesurer, pareil que la photométrie, on va mesurer combien de lumière il y avait dans chaque couleur. Et ça va nous donner ce qu'on appelle un spectre. Et donc ça va nous donner beaucoup plus d'informations. Surtout, ce qui est très important, ça va nous donner une information sur la composition de notre étoile, ou de nos objets qu'on est en train de regarder, on peut être en train de regarder un nuage aussi, à travers ce qu'on appelle des raies moléculaires ou atomiques. Et c'est quoi ça ? En fait, c'est dans les atomes, il y a des électrons dans les molécules aussi, et ces électrons, ils vont vibrer en quelque sorte, et ils vont absorber ou émettre de la lumière à des couleurs très très spécifiques. Et donc quand on va prendre ce spectre, on va voir une série de raies et d'absorption ou d'émission qui vont nous permettre de dire, là dans cette étoile, il y a tel atome ou telle molécule, et dans ce nuage ou dans toute autre chose qu'on est en train de regarder, il y a telle composition. Le problème de cette méthode, c'est qu'en général, comme on sépare la lumière, il va nous falloir un capteur un peu plus grand, et donc on va souvent avoir juste accès à une étoile à la fois en faisant cette méthode. Et comme on a séparé la lumière dans toutes ses couleurs, évidemment, il va falloir qu'on intègre pendant plus longtemps pour obtenir assez de lumière dans chaque couleur pour avoir une mesure fiable et sensible. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir à notre question de notre étoile. Elle avait une toute petite planète autour. Comment est-ce qu'on va faire pour détecter une planète autour ? Pour cela, la première méthode dont je vais vous parler, c'est la méthode des transits. Alors, qu'est-ce que c'est un transit ? Grosso modo, si on a notre étoile et notre planète qui tourne autour de notre étoile, si notre alignement il est assez bon, on va avoir la planète qui va passer devant l'étoile, ça s'appelle un transit, et donc elle va momentanément cacher la lumière de l'étoile, et donc on va avoir un peu moins de luminosité de l'étoile à ce moment-là. Et ce transit, il va avoir une forme assez particulière qu'on va pouvoir reconnaître dans la courbe de lumière de notre étoile. Voilà. Cette méthode, à quoi elle nous permet d'avoir accès ? Elle nous permet d'avoir accès tout d'abord au rayon de la planète, parce qu'en fonction de la taille de la planète, elle va cacher plus ou moins de lumière de son étoile. Elle va nous donner la période de l'orbite, parce que généralement, on ne va pas attendre qu'un seul transit, on va attendre d'en avoir un deuxième avant, ou même un troisième avant de dire qu'on a détecté une planète. Par contre, un des problèmes avec cette méthode, c'est il faut qu'on soit bien aligné avec le système, il faut que la planète elle passe devant l'étoile dans notre point de vue, et donc ça, c'est pas beaucoup des systèmes, c'est à peu près 1% des systèmes qui seront dans ce bon alignement. Deuxième problème, c'est les planètes qui sont assez éloignées de leur étoile, elles vont avoir beaucoup moins de chances de passer devant, d'être bien alignées, et donc ça va aussi être un biais de cette méthode, on va pas pouvoir détecter ces planètes très éloignées. Là, pour l'instant, on parlait que de photométrie, on regarde vraiment la brillance de l'étoile, mais le deuxième aspect très sympa des transits, c'est que si on passe maintenant en spectrométrie, notre planète elle va avoir l'air un petit peu plus grande dans certaines longueurs d'onde, dans certaines couleurs que dans d'autres. Pourquoi ? Ça revient à ce que je vous ai dit, il y a certaines molécules dans son atmosphère qui vont absorber certaines couleurs plutôt que d'autres, et donc elle va avoir l'air plus grande dans différentes couleurs que dans d'autres. Et donc si on peut faire ça dans plusieurs couleurs, on va pouvoir avoir accès à la composition de l'atmosphère de cette planète.
Finalement, est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour détecter les planètes autour des étoiles ?
Ouais, alors, est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui nous permettent d'avoir accès à d'autres paramètres de ces exoplanètes ? Oui, une deuxième méthode qu'on va pouvoir utiliser, c'est ce qu'on appelle la vitesse radiale. Alors ça, c'est une méthode qui est un petit peu plus difficile à comprendre, parce qu'on n'a pas forcément habitude d'y réfléchir. Mais en fait, on a vu que la planète, elle tournait autour de son étoile, mais l'étoile, elle n'est pas complètement fixe non plus. En fait, les deux tournent autour du centre de masse, du centre de gravité des deux planètes. Et donc, l'étoile va bouger un petit peu autour du centre de gravité entre l'étoile et la planète. Donc, c'est comme si la planète va attirer un petit peu l'étoile au fur et à mesure qu'elle tourne autour. Et donc, ce mouvement, on va pouvoir le détecter. Si on est assez sensible, on va pouvoir détecter que l'étoile, elle bouge un petit peu. Et à travers quoi est-ce qu'on va faire ça ? Encore une fois, on va le faire à travers le spectre de l'étoile. Il va y avoir ces raies. Les raies moléculaires de notre ou atomiques dans notre étoile, elles vont bouger un petit peu à cause d'un effet qu'on appelle l'effet Doppler. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un effet qui affecte les ondes. Par exemple, si vous avez déjà entendu passer une ambulance à côté de vous, quand elle se rapproche, le son il est un peu déformé, puis après quand elle s'éloigne, il est encore redéformé. Il va se passer exactement la même chose avec la lumière. Quand l'étoile va se rapprocher de nous, on va avoir la lumière qui va être un petit peu plus bleue, et quand elle va s'éloigner de nous, elle va être un peu plus rouge. Et ça, on va pouvoir le voir dans ces raies spectrales, du spectre de l'étoile. Et donc, c'est déjà affiché sur le slide, mais cette méthode, elle va nous donner accès à la période, encore une fois, de la planète, puisqu'on va pouvoir voir ces variations temporelles qui se répètent dans le mouvement de notre étoile, qui se rapproche et qui s'éloigne. Et elle va nous donner aussi accès à la masse de notre planète, parce que c'est lié à son attraction gravitationnelle par rapport à l'étoile. Et donc, c'est les forces de cette méthode. Alors, une des limites, c'est que si la planète elle est très peu massive, on va avoir très peu d'effets sur l'étoile, et donc ça va être très difficile à détecter. Le deuxième problème, c'est un peu le même qu'avec les transits, c'est que plus la planète va être loin, moins elle va exercer sa force gravitationnelle sur l'étoile en question, et donc plus l'effet va être petit et pareil, plus il va être difficile à détecter. Une dernière méthode, avant qu'on passe à la...
Quasiment.
C'est ce qu'on appelle l'imagerie directe. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait vraiment pas voir la planète à côté de l'étoile. Alors, je vous ai un petit peu menti. Aujourd'hui, on est en fait capable de cacher l'étoile. Voilà, on va venir mettre une petite pupille devant notre étoile et plein d'optiques derrière avec nos télescopes. Et on va cacher la lumière de l'étoile pour essayer de révéler les choses qui seraient proches de cette étoile. Pour cela, on a besoin d'un très gros télescope qui va nous permettre d'avoir la résolution, entre guillemets, pour utiliser cette méthode. Et cette méthode, elle va nous permettre du coup de prendre une image directe de nos planètes et du coup de voir la lumière de cette planète directement et de la voir tourner autour de sa planète. Donc elle ne va pas être limitée par l'orientation comme la méthode des transits ou la méthode des vitesses radiales. Elle va nous permettre du coup de détecter surtout des planètes qui sont loin, parce que cette pupille, il va falloir quand même qu'elle soit très petite pour cacher juste la lumière de l'étoile et pas de la planète. Donc, un de ses désavantages, évidemment, ça va être de ne pas avoir accès à des planètes très rapprochées et aussi de ne pas avoir accès à des planètes peu brillantes, parce qu'en fait, quand on cache la lumière de l'étoile, on n'est jamais parfait, donc il y aura toujours un petit peu de fuite et ça va... cacher le signal des planètes peu brillantes.
Donc cette fois-ci, ça y est, on a vu toutes les méthodes pour détecter les planètes. Donc finalement, est-ce qu'on peut savoir à quoi elles ressemblent ? Est-ce qu'elles ressemblent à celles du système solaire ?
Alors, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a détecté plus de 5000 exoplanètes, bientôt 6000, on est en fait à 5900. J'ai hésité à le mettre sur cette slide, mais j'ai revérifié tout à l'heure avec la NASA et ils en disent détecter 5900, donc je ne pouvais pas mettre plus de 6000, mais si on revenait dans quelques semaines, on y serait. Si on regarde par rapport aux planètes du système solaire, si on fait un graphique où on imagine des planètes de masse différente et de séparation différente avec leur étoile. Ces planètes, elles ont une très grande diversité par rapport aux planètes du système solaire. Et pour l'instant, on n'a pas encore vraiment découvert de vrais analogues au système solaire, parce qu'on n'est pas forcément sensible à toutes les planètes du système solaire. Je vous montre ici, du coup, toutes les détections, les 5000 planètes qu'on a découvertes en termes de leur masse et de leur séparation à leur étoile. Donc, vous pouvez voir qu'on en a découvert beaucoup, mais beaucoup qui sont plus massives et généralement plus proches de leur étoile que les planètes qu'on connaît dans le système solaire. On commence à être sensible à peu près à des planètes de la masse de Jupiter à la séparation de Jupiter. Mais pour les autres planètes, on n'a toujours pas de détection. Et ça, c'est vraiment des biais qui sont intrinsèques à nos méthodes de détection. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de planètes dans ces endroits-là, c'est juste qu'on n'y est encore pas sensible. Ces planètes, elles sont autour d'étoiles très variées. On peut en trouver autour d'étoiles de type solaire, de type des étoiles beaucoup plus grosses, beaucoup plus chaudes, des étoiles beaucoup moins chaudes, beaucoup moins massives. Elles ont, en moyenne, les étoiles, elles ont en moyenne plus d'une planète qui leur tourne autour. Donc c'est quand même commun d'avoir des planètes pour les étoiles, donc ça c'est déjà un résultat assez intéressant de la science des exoplanètes qu'on peut dire aujourd'hui. Par contre, voilà, comme je vous disais, on n'a pas encore de vrai analogue au système solaire et on n'a surtout pas encore de vrai analogue à la Terre, mais ça c'est quelque chose que je laisserai Guillaume discuter un petit peu plus dans sa partie de la présentation.
Oui, donc finalement, on voit qu'il y a une grande diversité d'exoplanètes. Enfin, il y en a vraiment énormément. C'est assez surprenant. Quel genre de planètes surprenantes on a pu voir dans toute cette diversité ?
Ouais, alors je vais... Très bien, je vais continuer par... Je peux discuter un peu de différents types de planètes qu'on a découvertes par rapport à ces caractéristiques-là auxquelles on a accès, donc leur rayon, leur masse principalement, et leur séparation à leur étoile. Certaines choses qui nous ont surpris quand on a détecté ces premières planètes, c'est la présence de beaucoup de planètes qu'on appelle Jupiter chaud, qui sont des géantes gazeuses comme Jupiter, mais qui sont beaucoup plus proches de leur étoile que notre Jupiter, et même souvent beaucoup plus proches que Mercure et du Soleil. Ces planètes, c'est un peu, c'est les premières planètes qu'on a pu découvrir parce que elles avaient des signaux qui étaient plus importants, mais ça nous a surpris parce qu'elles n'étaient vraiment pas prédites par la théorie. Et sur ces mondes, il y a de la physique assez étonnante qui se passe. Il y a des climats assez intéressants. Par exemple, on a l'exemple de HD 189, qui est une planète sur laquelle il va pouvoir pleuvoir du verre. Il va se faire assez chaud du côté jour de cette planète pour que le verre se vaporise, toutes sortes de roches qu'on connaît sur Terre se vaporisent dans l'atmosphère. Et du côté nuit, elles vont resolidifier. Il va pleuvoir du verre sur cette planète-là ou sur des planètes encore plus chaudes. On connaît des planètes où on a des preuves de nuages de fer ou de métaux. Donc, c'est des climats assez extrêmes sur ces planètes-là. On n'aurait pas trop envie d'y vivre. Par contre, on pourrait peut-être récolter du fer de leur côté nuit si, dans un futur très très lointain de science-fiction extrême. Deuxième type de planète, ça c'est un peu les planètes les plus communes. C'est ce qu'on appelle les mini-Neptunes et les super-Terres. Alors ça c'est intéressant parce que c'était aussi un résultat assez surprenant de découvrir ces planètes. Pourquoi ? Parce que comme le nom l'indique, en fait, on n'en a pas du tout dans notre système solaire. On a la Terre, Vénus, qui sont les planètes rocheuses les plus massives. On a Neptune et Uranus, qui sont les planètes gazeuses les moins massives, les géantes glacées. Et entre les deux, on n'a rien du tout. Quand on regarde autour d'autres étoiles, on trouve qu'en fait, les planètes les plus communes, c'est des planètes qui sont entre la masse et le rayon de la Terre et celui de Neptune. Et donc on appelle super-Terre, mini-Neptune. Et en fait, si on regarde la distribution en rayon de ces planètes, on voit vraiment deux populations distinctes en rayon. Et ça, c'est à cause de phénomènes qui vont... on pense que c'est à cause de phénomènes qui vont faire enlever les atmosphères de ces planètes quand elles sont trop proches de leurs étoiles. Et donc, les planètes plus de type Neptune, elles auront un corps rocheux à leur centre et une enveloppe de gaz très grande. Et si elles vont être trop proches de leur étoile, cette enveloppe de gaz, elle va être enlevée par l'activité de l'étoile. Et donc, elles vont avoir un rayon qui va devenir plus proche de celui de la Terre. Ok. Un autre type de planète qu'on a découverte, c'est ce qu'on appelle des mondes de lave, des océans de lave. Ça, c'est des planètes plutôt de type rocheuse, et qui sont très très proches de leur étoile, tellement que la roche va fondre, comme sur nos Jupiter finalement, nos Jupiter chauds, mais sur des planètes de type rocheuse. Et donc on connaît un certain nombre d'exemples de ces planètes qui sont de type lave, où leur surface serait couverte d'un océan de lave. Donc un exemple de ce type de planète, c'est par exemple 55 Cancri, dont vous avez peut-être entendu parler. Finalement, un dernier type de planète, et ça c'est les planètes qu'on va détecter plutôt avec les méthodes de l'imagerie directe, c'est des supergéantes très froides, donc qui sont très loin de leurs étoiles, c'est des très grosses planètes, loin de leurs étoiles, et c'est souvent aussi des planètes qui sont relativement jeunes, donc c'est aussi des planètes assez intéressantes pour comprendre comment se forment les planètes, et pourquoi est-ce qu'on les détecte plutôt quand elles sont jeunes ? Et bien parce que quand elles sont jeunes, elles sont encore plus chaudes, et donc elles émettent plus de lumière, et donc on va plus facilement les détecter avec l'imagerie directe que des planètes plus âgées. C'était à peu près tout ce dont je voulais vous parler ce soir.
bah, du coup, on va passer à cette deuxième partie avec Guillaume. Donc, sur la question, l'épineuse question de l'habitabilité potentielle des exoplanètes. Donc, Guillaume, je te laisse un peu te présenter et puis ensuite, on va passer à ta présentation.
Merci, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Guillaume Chavereau. Je travaille aussi à l'IPAG, donc l'Institut de planétologie et d'astrophysique. On est même dans le même bureau avec Vincent, donc on se connaît assez bien. Et donc j'ai passé ma thèse récemment et je suis arrivé à Grenoble en tant que postdoc, donc c'est chercheur en CDD. Donc si jamais vous avez du job, je cherche aussi du job. Voilà, et donc on est tous les deux avec Vincent dans le groupe Exoplanètes, et moi ma spécialité c'est surtout d'étudier le climat de ces exoplanètes, et je m'intéresse particulièrement aux petites planètes rocheuses qui sont potentiellement semblables à la Terre, avec en ligne de mire cette question de est-ce qu'on est seul dans l'univers ou pas. Donc pour faire le lien avec la présentation de Vincent, il vous a parlé de cette diversité qu'on observe et qu'on continue d'observer. Et donc comme je vous ai dit, pour cette question de l'habitabilité, de la recherche de vie, on va bien évidemment pas s'intéresser aux planètes semblables à Jupiter, mais aux planètes qui sont semblables à la Terre. Donc ça va restreindre énormément notre échantillon de planètes intéressantes, pour ma question en tout cas. Comme Vincent l'a dit, ces petites planètes rocheuses, elles sont extrêmement dures à détecter. Donc on en a quelques-unes, on n'en a pas beaucoup et on a peu d'informations sur elles. Donc il y a encore beaucoup de place pour la spéculation. Mais je vais essayer de vous montrer dans cette présentation qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce qu'on aimerait faire aussi. Donc sur cette question de l'habitabilité et de la recherche de vie, je pense que si je demande aux gens ici dans la salle, dessinez-moi une planète habitable, ça ressemblera sûrement à quelque chose de vert avec des océans, des arbres, autre chose. Juste dans la salle, levez la main ceux qui sont d'accord avec ce dessin pour une définition de planète habitable. Ah ouais, on a une bonne majorité. Eh ben non. Désolé, il y a une vraie différence de définition en fait entre planète habitable, la définition classique, et ce que nous on entend par planète habitable. Et il y a surtout une différence entre planète habitable et planète habitée. Là, cette définition avec des arbres, de la végétation, etc., des petits lapins, que sais-je, c'est une planète habitée, et on n'est pas du tout sur cette question-là. Voilà.
Oui, donc je précise la planète qu'on voit là, je précise pour les auditeurs, c'est un peu une planète qui ressemble finalement à la planète Terre. Donc toi, tu nous dis que ça ne définit pas forcément le fait qu'elle soit habitable ou non. Donc quels sont les éléments concrètement pour pouvoir vivre sur une planète ou ailleurs?
Donc pour essayer de définir ce qu'est l'habitabilité au sens astrophysique, je vais commencer par décrire quels sont les éléments de base essentiels pour l'apparition et la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc il y a trois éléments principaux. Déjà, il faut du matériel, donc des atomes, des molécules, des choses comme ça. Pour ceux qui seraient experts du domaine, on parle des fameux CNOPS, donc les atomes H, C, N, O, P et S. Je vous laisse chercher dans le tableau de Mendeleïev quels sont ces atomes. On a besoin aussi pour faire les réactions chimiques d'un solvant, donc d'un liquide dans lequel vont évoluer ces atomes et pouvoir interagir. Le meilleur solvant qu'on connaît, c'est l'eau. Ça tombe bien, la vie est basée sur l'eau et il y en a plein sur Terre. Donc jusque-là, tout concorde. Et on a besoin aussi d'énergie pour faire des réactions chimiques. Et sur Terre, la majorité de l'énergie vient du Soleil, mais on a aussi de l'énergie notamment géothermique. On sait qu'au fond des océans, près des cheminées hydrothermales, il y a énormément de vie qui foisonne, donc des bactéries, mais qui sont quand même de la vie très intéressante.
Est-ce qu'il...
Oui. Et donc, partant de ces conditions de base très simplifiées, on peut délimiter les conditions environnementales sur lesquelles la vie terrestre pour lesquelles la vie peut vivre, en fait. C'est assez bizarre dit comme ça, mais on a des conditions pour lesquelles la vie survit et on a des conditions pour lesquelles la vie vit. Et donc, nous, en astrophysique, on s'intéresse à ces conditions-là pour essayer de savoir où chercher, tout simplement. Donc, si on regarde en termes de pression et de température, la vie existe sur Terre à des pressions assez variées qui vont de 0,1 fois la pression terrestre à 1000 fois la pression terrestre, ce qui est assez énorme. Et donc là, je renvoie à la vie sous-marine près des cheminées hydrothermales. Et en termes de température, c'est un peu plus restreint. On va grosso modo de moins 50 degrés à plus 150 degrés. Et donc, là, on a déjà des bonnes indications pour restreindre notre champ des possibles pour ces questions de recherche de vie et de traces de vie dans l'univers.
Et donc, hormis sur la Terre, est-ce qu'il existe d'autres planètes qui rassemblent toutes ces conditions pour pouvoir y vivre ?
À part la Terre, si on reste dans le système solaire, parmi les objets les plus intéressants qu'il y a, il y a les lunes glacées de Jupiter. Donc la Terre a une seule lune qui s'appelle la Lune. Et il y a d'autres lunes autour des autres planètes. Et notamment, il y a cette lune qui s'appelle Europe, qui est extrêmement intéressante puisque donc elle est couverte d'une couche de glace. Mais sous cette couche de glace, il y a de l'eau liquide. On a de très fortes évidences pour ça. Et il y a également une source d'énergie géothermique à la base de cet océan sous-glaciaire. Donc là, on a toutes les conditions intéressantes réunies pour que j'ai citées précédemment, de l'énergie, de l'eau et des divers atomes. Europe est d'ailleurs une cible d'intérêt pour une mission qui va partir, qui est en route d'ailleurs, pardon, et qui devrait arriver là-bas en 2030, la mission Europa Clipper. Je dis « et en route » parce que c'est quand même pas la porte à côté. Donc, elle a déjà été lancée, mais elle fait son petit bonhomme de chemin et on attend qu'elle arrive.
Ouais, et donc, il existe un grand nombre de lunes comme ça autour de Jupiter. Et est-ce que cette lune qui s'appelle Europe, elle est la seule qui possède de l'eau liquide ?
Non, il y a d'autres cibles, il y a d'autres lunes intéressantes autour de Jupiter. Je vous mets ici quelques exemples. On peut citer notamment Ganymède et Encelade, en plus de Europe, pour lesquels il y a de fortes chances d'avoir un océan sous-glaciaire et qui sont aussi des cibles d'intérêt pour cette recherche de vie dans le système solaire.
Ouais, donc là, depuis le début, tu fais que de nous parler du système solaire, mais le sujet de la conférence, c'est quand même les exoplanètes. Donc, qu'en est-il de ces exoplanètes ?
Bonne remarque. Si on cherche de l'eau à la surface de planètes qui orbitent d'autres étoiles, on va donc beaucoup plus loin, comme Vincent l'a dit, c'est beaucoup plus dur de caractériser ces objets. On peut réfléchir de manière déjà très simple en termes de distance à l'étoile. Donc si la planète est trop proche, on suppose une planète avec de l'eau à sa surface, si la planète est trop proche de l'étoile, la planète va être extrêmement chaude, donc toute l'eau va être sous forme de vapeur. Si la planète est trop loin, toute l'eau va geler à sa surface et donc assez naturellement, il y a un intervalle de distance pour lequel l'eau, si elle existe sur cette planète, sera sous forme liquide. Pour étudier ces conditions-là, on a différents modèles numériques et c'est là où la science calculatoire arrive, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce que c'est un modèle numérique de climat ? C'est assez semblable aux modèles qui sont utilisés pour faire la météo. On va découper notre petite planète en latitude, en longitude, en altitude, et ce qui va nous donner une grille. Et dans cette grille, on va venir calculer tout un tas de phénomènes physiques. On va calculer, on va estimer la température, on va regarder s'il y a des nuages qui se forment, s'il y a du vent, etc. Et donc, il y a toute une machinerie là-dedans. Et connaissant des caractéristiques assez globales, la taille de la planète, la masse de la planète, la distance à l'étoile, on va supposer une composition atmosphérique et on fait tourner le modèle. Et le modèle nous estime typiquement le climat. Donc, est-ce que la planète est susceptible d'abriter de l'eau liquide ou pas ? Si on zoome un petit peu à l'intérieur de ces modèles pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, donc comme je l'ai dit, on va estimer toute la physique, donc les vents, on va regarder quelles sont les espèces chimiques dans cette atmosphère, est-ce qu'il y a des nuages qui se forment, à quel point le flux venant de l'étoile va réchauffer l'atmosphère. Pour estimer sa température et ce genre de choses. On peut également aussi, pour revenir à cette question initiale de la recherche de vie, savoir si certaines des molécules qui seraient dans l'atmosphère des exoplanètes et qu'on a détectées peuvent être un signal fort d'une présence de vie. Donc ce qu'on appelle une biosignature, la signature d'une activité biologique. Donc le plus évident, la molécule auquel vous pensez peut-être, c'est l'oxygène, puisque la photosynthèse produit énormément d'oxygène. Manque de bol, il y a aussi des processus qui ne sont pas de la vie, qui produisent de l'oxygène. Notamment, s'il y a de l'eau dans l'atmosphère, le flux ultraviolet venant de l'étoile va pouvoir venir casser ces molécules d'eau et créer des molécules d'oxygène O2 et des molécules de dihydrogène H2. Et donc, tout ça pour dire que détecter de l'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète, ce n'est pas nécessairement signe de vie, puisqu'on a des processus qu'on appelle abiotiques, donc non biologiques, qui peuvent aussi créer ce genre de molécules. Du coup, on peut essayer de regarder une autre molécule, typiquement le CO2, puisque nous, quand on respire dans cette pièce, on produit énormément de CO2. Toujours pas, puisque nous on produit du CO2, mais on consomme de l'oxygène. Et les plantes vont consommer du CO2 pour produire de l'oxygène. Donc on voit que c'est une question qui n'est absolument pas simple du tout, puisque là on a deux types de vie qui produisent des molécules différentes et qui consomment les molécules de l'autre. Donc c'est le bordel, quoi. Pour faire simple, c'est un peu le bordel. Donc, on a beaucoup de collègues qui bossent sur ces questions-là. Là encore, si on regarde pour le CO2, si on a de l'activité volcanique, ça va émettre énormément de CO2. Donc, détecter du CO2 tout seul, c'est pas non plus un traceur intéressant. Donc, on a beaucoup de collègues qui bossent sur ces questions pour essayer de dire, OK, si on observe telle molécule ou tel cocktail de molécules, on est sûr que c'est un signe de vie, mais pour le moment, on n'est pas capable de le dire. C'est un travail long cours.
Ouais, donc là, tu nous as présenté un peu tous les processus généraux, mais est-ce que tu as des exemples précis, par exemple, de planètes que tu étudies toi et tes collègues ?
À mon sens, le système le plus intéressant, un des systèmes les plus intéressants, on va essayer de ne pas se faire d'ennemis, un des systèmes les plus intéressants, c'est le système TRAPPIST-1, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que ça a assez défrayé la chronique il y a quelques années. Donc je précise qu'il s'appelle TRAPPIST, parce que c'est des collègues belges qui l'ont découvert, et je vous laisse deviner pourquoi, et je vous laisse deviner ce qu'ils ont bu le soir où ils ont trouvé ce système. Donc système hyper intéressant, pourquoi ? Parce que c'est déjà une étoile qui est assez proche de nous, donc qui dit proche dit plus facile à caractériser, et en plus on a petites planètes rocheuses qui orbitent autour de cette étoile, et il y en a trois qui sont à une distance vraiment pas mal pour avoir de l'eau sous forme liquide si eau il y a. Donc, clairement, trouver ce système-là aussi proche de nous, c'était jackpot. Donc, il y a énormément d'intérêt là-dessus, et ce système est notamment observé par le James Webb Space Telescope, qui a été lancé en 2019 et qui a fait une petite révolution en exoplanètes, en cosmologie, en physique stellaire, en un peu tout. Et qui nous a permis de caractériser relativement bien les planètes les plus de ces systèmes qui sont les plus proches de l'étoile, à savoir TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c. Donc, quand je dis caractériser relativement bien, ça veut dire qu'on a détecté quelques molécules dans ce qui pourrait être une atmosphère, et on a plusieurs scénarios, à savoir scénario 1, pour la planète B, il n'y a pas d'atmosphère. Scénario 2, il y a une atmosphère, mais elle est composée quasiment que de CO2. Donc, on peut étudier assez correctement ces deux planètes qui sont les plus proches de l'étoile, mais pour toutes les autres, dont les trois planètes qui sont potentiellement porteuses d'eau liquide, même le James Webb Space Telescope n'est pas assez puissant pour aller les caractériser et les étudier de manière précise.
Ouais, donc pour l'instant, en fait, on ne peut pas observer ces planètes qui sont éloignées de l'étoile. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra espérer les observer de manière plus précise, justement ?
Donc oui, on aimerait bien. Et heureusement, pour ça, il y a des instruments qui sont en construction. Donc là, je vous donne un exemple assez parlant qui est le Extremely Large Telescope, ELT, qui est en construction au Chili. Donc c'est son vrai nom, en sachant que son prédécesseur s'appelait le Very Large Telescope. Donc pour les anglophones, vous verrez qu'on a une imagination débordante en astrophysique. Non, je vous rassure, on a des instruments qui ont des noms beaucoup plus fun quand même. Mais là, ouais, il y a eu un petit manque de fun sur ce nom. Bref, cet instrument qui est en construction donc dans le désert d'Atacama au Chili va clairement révolutionner le milieu des exoplanètes, mais aussi toutes les autres sciences astrophysiques, parce que le miroir principal du télescope, donc savoir le récepteur de lumière de ce télescope, ce miroir fait 40 mètres de diamètre, ce qui est absolument gigantesque comparé aux quelques mètres de diamètre des meilleurs télescopes actuels. Donc qui dit grand miroir dit plus de photons. Les photons, c'est de l'information. Donc plus grand miroir, plus d'informations, et donc de la science plus précise, en gros. Donc ce télescope est en construction, il y a plein d'instruments qui vont aller dessus au cours des prochaines 20 années. Et on espère, grâce à cet instrument-là et à d'autres qui sont aussi en construction, pouvoir aller avoir des informations plus précises et espérer avancer sur cette question de savoir est-ce qu'on pourrait détecter des biosignatures, déjà de l'eau, sur une exoplanète, et ensuite, pourquoi pas, des biosignatures. Et donc pour conclure cette petite discussion, j'aimerais récapituler un peu ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on cherche à la fois dans le système solaire et au-delà, donc pour les exoplanètes, puisque c'est comme les exoplanètes sont extrêmement loin, on a beaucoup moins d'informations. Donc pour le système solaire, on a des lunes candidates porteuses d'eau liquide, notamment les lunes glacées du système de Jupiter, pardon, et de Saturne. Et donc il y a un vrai travail sur savoir qu'est-ce que serait une biosignature, puisque comme c'est dans le système solaire, on peut envoyer des missions directement sur ces objets-là, mais on est encore loin d'avoir trouvé de la potentielle vie extraterrestre. Et pour ce qui est des exoplanètes, on n'a toujours pas de candidats solides. On a quelques planètes qui sont potentiellement des candidats, mais ce n'est pas encore des candidats avérés. Tout est dans la subtilité des termes. Au liquide, toujours pas, on cherche. Hein. Et donc, dès qu'on va sur biosignature et des choses plus complexes, là, on n'y est encore pas du tout. Mais peut-être qu'avant ma retraite, on y sera. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Et c'était quoi ?
L'apérophonie !
Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 ! Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.